Alain a choisi ce matin le psaume 22. Alain Ménis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan, m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se déchaisse comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui, ils s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Chers frères et sœurs, ce Ce matin, quand je suis rentré à l'église, j'ai remercié Dieu de ce qu'il y avait peu de monde. C'était les vacances. Mais maintenant, je vois qu'elle est remplie. D'autant plus, je vais surpasser mon émotivité, que les cantiques ont été chantés, on les a chantés sans concertation et correspondent au sujet de ce matin. D'autre part, sans le savoir, l'école du sabbat de ce matin rejoint un petit peu le sujet que je voulais vous présenter. Et c'est pour cela que j'ose demander à Dieu, malgré le monde qu'il y a devant moi, qu'il m'inspire et qu'il aide, qu'il vienne au secours des défaillances de ma mémoire. Il était une fois, c'est ainsi que commencent toutes les histoires, c'est une histoire que j'ai lue dans une revue, je crois que c'est la revue Adventisme, je ne me souviens pas très bien, une croisière extraordinaire, magnifique. Le temps était au rendez-vous. Les occupations, les loisirs étaient au maximum. Mais malheureusement, une nuit, la tempête arrive. Les gens affolés courent dans tous les sens. Mais le commandant a dit, non, restez sur place. Nous allons régler ce problème. Le problème est tempête. Ce n'est pas la première fois que ça est arrivé. Ça a duré, la tempête. Si bien que les passagers, les vacanciers, bien se posaient des questions, mais est-ce que, où on va? Est-ce qu'on va aborder quelque part, à un port? Ou est-ce que le navire part à la dérive? Et alors, plus courageux que les autres, ose désobéir à l'ordre du commandant et essaye d'aller voir au centre de pilotage, à la cabine de pilotage, ce qui se passait. Bien sûr, ballotté par les flots, tombant parfois, il arrive à cette pièce où il voit tous les marins affairés, concentrés, et même le commandant le regarde, intrigué d'abord, il lui sourit, et puis il continue à vaquer à ses occupations. Ce passager, regaillardi, il est réconforté et il retourne vers ses co-vacanciers. Il leur dit, écoutez, vous n'avez rien à perdre, rien à craindre. Parce que le commandant, il est calme, les marins sont calmes, ils travaillent, ils s'occupent de nous. Et en plus, en revenant, par un hublot, j'ai vu les lumières d'un port. Alors donc, nous allons bientôt accoster. C'est une histoire qui se termine bien. Mais j'aime un petit peu imaginer si, tout d'un coup, les marins se rendaient compte qu'ils avaient perdu la main, comme parfois on perd la main sur un ordinateur, et on s'arrache les cheveux qu'on en a, pour dire, ah là là, je vais perdre le travail que je suis en train de faire, j'ai oublié de sauvegarder. Eh bien, si en effet ces marins s'étaient rendus compte qu'ils perdaient la main, qu'ils n'avaient plus leur situation, ils ne maîtrisaient plus leur situation, eh bien, comment allaient-ils réagir? Cela me fait penser à d'autres tempêtes. La tempête qu'a subie Paul, où c'est Dieu qui est intervenu pour dire à Paul, écoute, rassure les soldats, les voyageurs, que votre vie, vous l'aurez sauve, vous ne risquez rien. Et il y a une autre tempête qui m'a troublé pendant un moment. C'est la tempête où Jésus, calme, serein, dormait, tandis que les disciples, pourtant des pêcheurs, des gens qui étaient habitués à rencontrer de multiples tempêtes, s'affolaient. Ils avaient peur de perdre leur vie. Ça me rapproche un petit peu plus de ce que nous sommes, nous humains, Ou parfois, eh bien, on va la joie maximum, presque l'euphorie, puisqu'on sent la communion avec Dieu. Et puis, le moment où les perplexités de la vie, les difficultés, les problèmes sont là. Et une autre histoire que j'ai lue dans la même revue, c'est une chrétienne d'un certain âge, si je me souviens bien, cardiaque, et qui, j'espère ne pas trop déformer l'histoire que j'ai lue, risque d'être atteinte du cancer. Et elle a subi des examens. Et elle disait à ses amis, c'est pas bien d'avoir peur. J'ai peur du résultat de l'examen. C'est pas bien, je suis chrétienne. Je sais que Jésus est avec moi. Je sais que je ne crains rien. Mais pourtant, j'ai peur. En tout cas, le psaume que nous avons lu, c'est un psaume messianique. Vous l'avez vu. Et pourtant, il est dit, le premier verset, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un psaume écrit par David, mais c'est une parole reprise par Jésus sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien sûr, dans notre vie de chrétien, il y a des moments cruciaux où nous devons faire un choix crucial. Soit continuer à faire confiance en Dieu, soit perdre cette confiance dans l'amour de Dieu et laisser entrer, pénétrer au plus profond de nous le doute et l'incrédulité. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de faire le pas de la foi, puisqu'il a fait le pas de la foi, puisqu'il a dit à son Père, quelque temps après, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli et il expire. D'abord, premier élément, c'est la communion de Jésus avec son Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, verset 27. Jean, chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Je ne suis pas seul. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, rendent témoignage de moi, exactement. Jésus avait une foi sans faille. Conscient que lui et le Père ne pouvaient jamais être séparés. Et si bien que cette relation intime faisait que ce que je vois faire le Père, je le fais moi aussi. Si bien qu'il ose dire à ses disciples, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne de se soulever, elle partirait. Et pourtant, Jésus sur la croix, se sent abandonné du Père. Mais Jésus, il savait bien qu'il allait ressusciter. Dans l'évangile de Matthieu, par trois fois, l'expression est répétée. Matthieu, chapitre 16, verset 21 d'abord. Il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Après la transfiguration, quelque temps après, parce que ce n'est pas dit dans le texte, chapitre 17, verset 23, il dit à ses disciples, ils le feront mourir, donc Jésus lui-même, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et les disciples furent profondément attristés. Et quand Jésus et les disciples vont vers Jérusalem, le dernier voyage, la semaine cruciale, définitive, décisive, Matthieu chapitre 20, verset 19, Jésus répète à ses disciples, « Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Comment comprendre que Jésus, qui avait cette communion extraordinaire de tous les instants avec son Père, qui savait qu'il allait ressusciter, et sur la croix, il ne sent plus rien. Il ne Bah, apparemment, il ne se souvient de rien. C'est ainsi que nous lisons dans Jésus-Christ la phrase suivante, enfin le paragraphe suivant. Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce sera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché, qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Jésus-Christ, je ne vous donne pas le numéro de la page, mais une référence. Jésus-Christ 757:2. D'où ça vient? Simplement, vous avez la possibilité d'avoir sur Internet un site egwhitewriting.org et là vous avez tous les écrits de Madame White en français. Et même vous pouvez l'avoir si vous voulez sur un smartphone ou une tablette. Avant, on avait la possibilité de voir, de faire une recherche grâce à l'ordinateur sur la Bible. Maintenant, nous pouvons faire des recherches aussi sur les écrits de Madame White. Et c'est ainsi donc que j'ai trouvé ce passage, Jésus-Christ 757:2. Vous pourrez retrouver aussi. En fait, Jésus se sent abandonné de son Père, mais il ne l'était pas. En effet, pendant les 3 heures de ténèbres qu'il y avait autour de la croix, voici ce que Madame White dit. Ces ténèbres épaisses cachaient la présence de Dieu. Il fait des ténèbres son pavillon, il dérobe sa gloire aux yeux des humains. Dieu et ses saints anges se tenaient près de la croix. Le Père restait invisible près de son Fils. Sa gloire éclatant à travers la nuit, eut anéanti tous les spectateurs humains. À cette heure redoutable, le Christ ne devait pas être réconforté par la présence de son Père. Il devait être seul à fouler au pressoir et personne parmi les siens ne devait se trouver avec lui. Jésus est passé là par tous les événements que tous les êtres humains passeront. Soit dans notre vie présente, au moment des grandes difficultés, des grandes angoisses, ou au moment où Jésus reviendra, ceux qui n'ont pas cru en lui ressentiront ces affres de la séparation d'avec la vie, avec un grand V. Et Jésus, quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous le lirons, c'est vrai, le doute l'a assailli. Mais c'est une question simplement, un constat. Il se sent abandonné. Il n'interprète pas, il n'affirme pas. Il constate simplement ce qu'il ressent. Au moment de sa plus grande faiblesse, le Christ fut assailli par les tentations les plus terribles. Satan s'imaginait vaincre ainsi. Cette méthode lui avait réussi auparavant. Des hommes qui avaient combattu vaillamment et pendant longtemps pour le bien s'étaient trouvés vaincus quand leur force avait diminué, quand leur volonté s'était affaiblie, quand leur foi avait cessé de se reposer sur Dieu. Moïse, Élie, dès qu'un homme est entouré de nuages, plongé dans la perplexité par les circonstances ou affligé par la pauvreté ou le malheur, Satan est tout prêt à renouveler ses tentations. Il cherche les points faibles de notre caractère. Il s'efforce d'ébranler notre confiance en Dieu qui tolère un tel état de choses. Nous sommes tentés de perdre confiance, de mettre en doute l'amour divin. Le doute en soi, à mon point de vue, n'est pas un péché, c'est une tentation. Mais si ce doute est entretenu, si finalement il nous rend prisonniers, esclaves, que nous n'en pouvons plus nous libérer. Alors là, comme dit Jacques dans son Épître chapitre 1, verset 15, eh bien, ce doute, cette tentation, enfante le péché. Et là, une citation que j'ai trouvée aussi d'un patriarche et prophète. C'est juste après que les Israélites ont été secourus des Égyptiens et ont pu traverser à sec la mer Rouge. Leur vie, c'est les croyants de tous les siècles, c'est dit quelques phrases avant, est souvent traversée de dangers et le devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagination dresse devant eux une ruine inévitable et derrière eux l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire qui leur dit « marche ». À nous d'obéir à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et si les ondes froides baignent déjà nos pieds, les obstacles ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ce qui renvoie le moment d'obéir jusqu'à ce qu'il ait disparu toute ombre d'incertitude et qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite, n'obéiront jamais. Le doute murmure, « Attends que soient tombées les entraves et que tu vois clairement ta voie. » Mais la foi qui espère tout et qui croit tout dit courageusement, « En avant !» La nuée ténébreuse pour les Égyptiens répandait des flots de lumière dans le camp des Hébreux, sur la route à suivre. De même, les voies de la Providence n'apportent aux incroyants que ténèbres et désespoir, tandis que pour les âmes confiantes, elles rayonnent de lumière et de paix. Le sentier par lequel Dieu nous mène peut traverser le désert ou la mer, mais c'est un sentier de sécurité. Jésus, lui, a fait, comme je disais tout à l'heure, le pas de la foi. Quels étaient ses fondements ? D'abord, Jésus s'appuie sur le témoignage de Dieu. Au moment du baptême, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » À la tentation du désert, ce n'est pas une voix qui se fait entendre, mais ce sont des anges qui viennent secourir Jésus. Matthieu chapitre 4, versets 11, 10 et 11. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu vas servir lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Au moment de la transfiguration, une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Avant la crucifixion, quand des Grecs viennent voir les disciples, « Nous voulons voir Jésus. » Et Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix se fait entendre, « Je le glorifierai encore. » Et dans ce passage que se trouve dans Jean au chapitre 12, nous voyons que finalement Jésus s'appuie sur son Père, il est en communion avec son Père, il entend cette voix qui apporte encore un témoignage nouveau. Mais on voit là sa détresse commencer. Au verset 27, « Mon âme est troublée. » Et que dirais-je, « Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. « Père, glorifie ton nom. » Et alors une voix du ciel lui répond, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Et la foule qui avait entendu dit, « Un ange lui a parlé. » Il y a une chose que j'ai découverte, il n'y a pas longtemps, alors que Jésus était à Gethsémané, alors que finalement il était encore en communion avec son Père, malgré toutes les tentations et la pression que le diable faisait subir sur lui. Si bien que par trois fois, la coupe a tremblé. Mais il a été secouru à Gethsémané. Luc chapitre 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, sur la croix, Jésus a le souvenir de cela, de cette communion avec Dieu. Mais pourquoi ? Je ne l'ai plus ? C'est la question qu'il pose. Mais en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas Jésus, nous n'avons peut-être pas entendu des voix, nous n'avons peut-être pas vu des anges nous aider. Et pourtant, j'ai trouvé deux passages, un dans Romains chapitre 8, verset 16, où il est dit, l'Esprit lui-même, l'Esprit, le Saint-Esprit donc, lui-même rend témoignage à notre esprit, à notre cerveau, notre intelligence, notre conscience, que nous sommes enfants de Dieu. Donc finalement, nous avons la même conviction que Jésus a eue et que nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, et au chapitre 3 et verset 1 à 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jésus avait une communion discontinue avec son Père. Il n'y avait rien qui perturbait cette communion. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous. Nous pouvons perdre. Et Madame White, en mentionnant l'épisode Jésus à 12 ans, quand ses parents l'ont perdu, voici ce qu'elle écrit. Si Joseph et Marie étaient restés en étroite communion avec Dieu par la méditation et la prière, ils auraient reconnu le caractère sacré du dépôt qui leur avait été confié et n'auraient pas perdu de vue Jésus. Un seul jour de négligence leur ravit le Sauveur. Pour le retrouver, il leur fallut 3 jours de recherche anxieuse. Nous-mêmes faisons semblable expérience par des conversations oiseuses, des médisances ou par la négligence de la prière. Nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur. Et bien des jours de recherche douloureuse peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons rentrés en possession de la paix momentanément disparue. Deuxièmement, Jésus, non seulement il s'appuyait sur le témoignage de son Père, mais Jésus avait conscience de la place qu'il avait dans la société dans laquelle il vivait, de sa mission, puisque nous sommes à l'étude de l'école du sabbat, la mission, le réveil. Et je voudrais lire avec vous, donc, un passage que j'ai trouvé aussi. S'il y eut jamais une époque où chacun de ceux qui craignent Dieu est appelé à mener une sérieuse réflexion, c'est bien maintenant, alors que la piété personnelle est essentielle. On devrait se demander qui suis-je, que suis-je, pardon, et quelle est ma tâche et ma mission en ce temps particulier? Avec qui suis-je en train d'œuvrer? Avec le Christ ou avec l'ennemi? Que chaque âme s'humilie devant Dieu, car aujourd'hui, nous vivons certainement le grand jour des expiations. En ce jour, votre garantie véritable, ce n'est pas votre profession de foi, mais la nature de vos affections. Le temple de l'âme est-il purifié de ses souillures? Vos péchés ont-ils été confessés? Et est-ce que je m'en suis repenti devant Dieu, afin qu'il puisse être effacé? Est-ce que je porte un jugement sérieux sur moi-même? Suis-je prêt à n'importe quel sacrifice? Et à tous les sacrifices pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Ai-je conscience en permanence du fait que je ne m'appartiens pas, mais que je suis la propriété du Seigneur, que mon service appartient à Dieu, qui me possède entièrement? Un autre élément qui a soutenu la foi de Jésus en ce moment crucial de sa vie, c'est sa connaissance de la révélation de Dieu. Les Écritures. Vous avez certainement remarqué à plusieurs reprises dans nos testaments, Jésus dit « Il est écrit, il est écrit ». Ou alors, n'avez-vous pas lu ? N'avez-vous pas lu ? Si bien que les gens disent, mais comment il sait des Écritures, lui qui n'a jamais étudié ? Mais j'aimerais relever quelque chose en particulier sur ce point-là. Quand le diable, rusé comme il est, voyant que Jésus s'appuyait sur les Écritures, dit, il est écrit, les anges te porteront, etc., etc. Que dit Jésus ? Attends. Tu as mal compris. Lis le contexte, mon garçon. Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est aussi écrit. Et là, j'aimerais soulever justement une question importante. Souvent, ne me faites pas dire le contraire de ce que je veux dire, souvent, on prend un passage de la parole de Dieu et on la fouille jusqu'à les profondeurs de la terre. C'est bon, parce que ça nous permet de grandir, de croître, de ne pas en rester au petit nez, mais d'en revenir à nourriture solide, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Et je vais vous dire une confession. Pour moi, c'est moins important qu'autre chose. Si on est capable de faire comme Jésus, de dire, ah d'accord, un adversaire me dit, il est écrit. Mais oui, mais attention, il est aussi écrit. Règle ton problème, mon garçon. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, il n'y a aucune contradiction entre « il est écrit » et « il est aussi écrit ». C'est toi qui as mal compris. Et je pense, j'ai grandi dans l'église où l'habitude, c'était le conseil qu'on nous donnait à l'époque, quand j'étais jeune, lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en entier. Bon, il y a des passages qu'on va un peu plus vite parce que ce n'est pas notre préoccupation ou ça nous dépasse. Mais lire. Et on se rend compte, j'en ai fait l'expérience, que finalement, notre cerveau, même dans notre sommeil, il fait la synthèse de toutes les actions, les effets de la journée, et finalement, il y a des liens qui se font, et des choses que nous ne comprenons pas, et quand on les relit une deuxième fois, « Ah, mais je n'avais pas pensé à ça !» Et ça fait le lien avec d'autres passages de la Bible qu'on avait oubliés. En ce qui nous concerne, nous avons la même possibilité que Jésus. Même plus, puisque nous avons la parole écrite. Ce n'est pas des manuscrits énormes, lourds à porter. Nous pouvons avoir la Bible, toute la Bible entière, dans un petit téléphone. Et Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16, vous la connaissez par cœur, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Et je vais vous donner la traduction de la parole de vie. Les livres saints sont inspirés de Dieu. J'aime bien. Et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Une question que je me pose. Supposons que nous ayons écrit que l'Ancien Testament et que nous devions construire notre foi uniquement sur ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous rapporte de la vie de Jésus. Je ne crois pas que nous ayons la connaissance du plan de salut que nous avons aujourd'hui. Supposons maintenant que Dieu, sachant cela d'avance, dise non, je vais quand même leur faire écrire, aux chrétiens bien sûr, les évangiles pour qu'au moins ils aient une preuve écrite de la vie de Jésus. Ils pourront mieux connaître, mieux comprendre. Ah là, c'est vrai, c'est déjà mieux. Mais si nous n'avions pas toutes les épîtres pour nous expliquer le pourquoi du comment, eh bien, je suis sûr que nous irions dans toutes les hérésies possibles. Et même malgré ces épîtres, l'Église, pendant un millénaire, le Moyen-Âge, est allé dans toutes les hérésies possibles. Alors, si Dieu a jugé bon d'envoyer, enfin de permettre à des hommes inspirés par Dieu, par son esprit, de rédiger des conseils, des recommandations, des explications, et que nous les laissions de côté, que va-t-il se passer pour nous ? Nous risquons d'être dans l'obscurité et ne pas recevoir la lumière que Dieu veut nous faire percevoir. Pourquoi je dis cela ? Parce que j'ai grandi dans l'Église à un moment où on faisait un mauvais usage des écrits de celle qui a été inspirée par Dieu et en qui j'ai confiance, Madame White. Et finalement, on est arrivé à douter de son inspiration. On est arrivé à ne plus accepter de faire l'expérience de lire tous ses écrits, comme la Bible, du commencement à la fin, et de voir le fruit que cette lecture peut apporter à nous. Enfin, Jésus s'est appuyé sur le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il s'est arrêté là. Peut-être parce qu'il était au bout de ses forces physiques, il n'avait plus la force de continuer à réciter ce psaume. Peut-être aussi parce qu'il voulait éviter de dire les mots suivants qui ne correspondait pas à ce qu'il pensait réellement. Et ces mots suivants, c'est ça. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Non, il n'y pense pas. Il avait sa foi en Dieu, intacte, intégrale. Et une dernière chose, qui ont soutenu la foi, et je pense qu'il peut soutenir notre foi, même dans les moments difficiles, c'est que Jésus sur la croix. Bien sûr, quand il a soif, il a dit « j'ai soif », il a pensé à lui. Quand il a constaté que Dieu ne sentait plus la présence de Dieu avec lui, eh bien, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais en dehors de cela, quand la foule se moque de lui, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand le brigand, sur la croix, s'adresse à lui. « Souviens-toi de moi. » Qu'est-ce que Jésus répond ? « Je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. » Quand il voit Jean et sa mère au pied de la croix, « Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il s'occupait des autres. » Finalement, Jésus est passé par les mêmes angoisses que nous, et même pire, puisqu'il était fils de Dieu et ses angoisses ont été au niveau de sa divinité unie à son humanité. En tout cas, lui aussi, il a eu des difficultés où il a été tenté par le diable de mettre en doute l'amour de Dieu à son égard. Or, nous pouvons savoir, et la parole de Dieu est claire, Dieu nous aime. Et Jésus serait mort, même s'il était le seul sur cette terre à avoir péché. À quel point il m'aime. Et quoi qu'il arrive, faisons le choix de la foi, comme Jésus, et que Dieu nous aide dans notre parcours jusqu'au moment où nous le reverrons venir sur les nuées des cieux. Amen.